Pour dénoncer l'illogisme de l'emplacement du projet du lien mécanique dans le Vieux-Lévis. Hier, ce regroupement mettait en ligne une vidéo et une page Facebook pour un lien mécanique logique dans le Vieux-Lévis afin de démontrer les conséquences du projet à cet emplacement. L'organisation lance également une pétition pour que la ville de Lévis organise une consultation publique spécifiquement sur le dossier du lien mécanique et ce, avant la fin du mois de mai. Le regroupement spécifie ne pas s'opposer au projet, mais recommande plutôt de mettre en place un lien direct menant à la terrasse de Lévis, située sur la rue William Tremblay. Toutes les informations sur la page Facebook pour un lien mécanique logique dans le Vieux-Lévis. Ce soir, à 19h, participez à un débat-échange sur les définancements de la police à la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec, dans le quartier Saint-Roch. En collaboration avec le Collectif révolutionnaire de Québec et la clinique Droit de santé, cette activité présentera un portrait complet de ce qu'est le mouvement de définancement de la police. S'en suivra une discussion sur les options de transfert de budget possibles pour financer des ressources d'intervention adaptées aux besoins des citoyennes et citoyens. Ce matin, dans Québec Réveil, notre animatrice Marjorie Champagne jasait avec Mathieu Fournier, réalisateur du documentaire Dans l'ombre de Star Wars Kid, avec Christopher Curtis, de retour d'Ukraine, avec Nicolas Gendron, metteur en scène du spectacle L'enfance de l'art, doigt d'auteur de Marc Favreau, et Guillaume Lavallée, journaliste à l'agence France Presse, chef du bureau de Jérusalem. L'émission est disponible sur toutes les plateformes, Facebook, Twitch et ckiafm.org. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de ckiafm 88.3 et ckiafm.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant Thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon.
Et Larry, c'est le temps de débuter l'émission, mon cher. On est en onde partout, que ce soit Facebook ou CKIAFM.
D'accord, c'est parce que j'essaie de faire répondre à une question rapidement à mettre sur l'émission. Mais moi, je ne suis pas vite avec ces choses-là. Fait que ça me prend quelques secondes. Ben, bonjour tout le monde. On va dire que j'ai réussi à faire envoyer des questions à Michel, qui va pouvoir le mettre en rond tantôt. Bienvenue à tout le monde. Vous écoutez l'émission sur Facebook Live et aussi sur CKIRFM à Québec. Je m'appelle Larry Hodgson et nous allons parler, comme toujours, du jardinage à ce Facebook Live. Mon sujet du jour, c'est le nez du jardin partout au Canada. C'était déclaré le nez du jardin officiellement par le gouvernement du Canada il y a 4-5 jours, quelque chose comme ça. Unanimement, imaginez ça. Enfin, tous les partis se mettent ensemble pour voter pour quelque chose de bien. Excellent. L'idée est de faire de cette année-ci une année de célébration pour les jardins. Il y a beaucoup d'activités qui vont avoir lieu, mais une partie des activités, ça dépend de nous. Hein? On ne peut pas juste les créer, les forcer. Il faut que les gens embarquent. Donc, vous allez voir différentes choses offertes. Mais, par exemple, une des possibilités, c'est de planter du rouge. Ce serait la couleur thème pour l'année du jardin au Canada. C'est une idée qui vient de Michel Gauthier, qui est une spécialiste dans les événements en tout cas. Et c'est une, donc une activité, mais qui est rejoint partout au Canada. Toutes les provinces participent. Beaucoup de grandes villes participent aussi. Et l'idée est de faire de l'année une année où on va parler de jardinage. J'en parle dans ma chronique, en tout cas, dans le soleil ce matin. Mais il va y avoir d'autres activités plein partout à surveiller. Et évidemment, l'événement phare de toute l'année, l'année du jardin, c'est les mosaïques culturelles à Québec cet été. Ils vont avoir lieu le 24 juin jusqu'au 10 octobre. Et vous allez voir beaucoup d'autres choses. Sur le site web du jardin, l'année du jardinage, jardin, il va y avoir des activités pour les enfants, comment faire une école, un jardin à l'école. Il va y avoir des moments historiques dans le jardinage qui vont être annoncés. On va parler de l'histoire des personnes célèbres qui ont jardiné. Beaucoup, beaucoup de choses. Tout ça, ça commence demain matin. Donc, ou peut-être même ce soir. Je ne sais pas. Mais le web va être actif surtout à partir de demain. Donc, voilà. L'année du jardin, il faudra qu'on en parle et qu'on participe tout le monde.
Donc, est-ce voilà. Que, Larry, est-ce qu'il y a une adresse Internet que tu pourrais nous donner pour avoir plus d'informations sur ce, oui. Ce qui va se passer cet été, là, de, en fait, ce dont tu viens de parler?
Oui, je vais trouver ça, parce que, comme d'habitude, je ne suis jamais très rapide. C'est...
En fait, fais juste renommer l'activité. Je vais la trouver plus rapidement, peut-être.
C'est l'année du jardin au Canada. Et c'est, en tout cas, c'est justement l'année du jardin, ça s'appelle, 2022. Et ça va être surtout live demain. Il y a déjà certaines choses sur le site web, mais le vrai va être demain. Oh, je ne suis pas capable de trouver ça. Très, très pauvre dans ces choses. Que voulez-vous? Donc, voilà. Donc, allez-y voir. Et en plus, j'ai quand même eu une question tantôt. Michel, est-ce que tu as reçu les questions que je t'ai envoyées?
Je n'ai pas vérifié. Donne-moi une petite seconde.
La partie j'ai faite pendant que tu me cherchais désespérément il y a quelques minutes. J'essaie d'envoyer des photos et les questions et j'ai réussi à envoyer deux séparément. Que voulez-vous?
Vite comme ça, j'ai rien reçu.
Oublions ça. Ça va peut-être la prochaine fois. Donc, Michel, je vais te laisser choisir une question live dans ce cas-là.
Donne-moi deux petites secondes. J'ai trouvé le site Internet de l'année du jardin. Je vais tenter de le faire rapidement pour le donner aux gens qui vont, si ça les intéresse, d'y aller. On va faire ça le plus rapidement possible. Mais en attendant, je vais te donner une première question de Mélanie Brière. Nous allons enlever une partie de l'asphalte pour se faire un potager et planter des fleurs. J'imagine que ce sera bien tassé en dessous. Est-il nécessaire de casser la surface? Et étant donné qu'il n'y aura probablement pas de mauvaises herbes, est-il nécessaire de recouvrir la surface de papier, journal, carton, avec avant de mettre la terre? Comment procéder, s'il vous plaît? Merci.
Donc, voilà pour la question pour Mélanie. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Parce que ma cour arrière était asphaltée quand j'ai acheté ma maison. Évidemment, je ne le savais pas. On a acheté en plein hiver. Donc, à Québec, c'est évident qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a sur le terrain. Je présumais que c'était du gazon. Mais c'était l'asphalte. Pas complètement, il y avait des coins, il y avait trois trous dans l'asphalte. Un avec un lilas, un avec un pommetier, un avec un bouleau mourant. Mais voilà, j'ai dû casser beaucoup d'asphalte. La seule chose qu'il faut vraiment vérifier avant d'aller plus loin, enlever l'asphalte, c'est sûr, bien sûr. Puis après ça, arroser pour voir. Si l'eau passe, vous n'avez pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Vous pouvez tout de suite rajouter de la terre et commencer à jardiner. Pas dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Mettre du papier journal, dans votre cas, vous avez bien raison. Ce ne serait pas nécessaire. Il n'y aurait pas de semence dans ce sol-là. Et même s'il y en avait, parce que ça se peut que, supposons que la salle est là depuis, disons, 10 ans. Il y a des semences qui peuvent vivre plus longtemps que ça. Mais ça, le fait d'être longtemps les fatigue. Et si vous rajoutez sur une semence qui est un peu, qui manque de force, et vous rajoutez une couche de terre, ne serait pas carré de plus. Donc, rajouter 20 cm de bonne terre par-dessus pour des simples annuelles, des jeunes vivaces, des choses comme ça. Si vous avez un potager, j'aurais vraiment 30, hein, potager prend plus profond. Mais vous pouvez carrément jardiner par-dessus du gravier ou peu importe qu'est-ce qu'ils ont mis comme couche. C'est incroyable comme les plantes réussissent bien. Quand on sent leur première couche de bonne terre, vous avez, waouh, les résultats peuvent être extraordinaires.
J'ai réussi à entrer la journée du jardinage, l'année du jardinage, pardon.
Oui.
L'adresse est ici. Ouais. Je vais la dicter. C'est https, et c'est bien important, 2.// Live the Garden Life, LIVETHEGARDENLIFE Gardens Canada, GARDENSCANADA .ca /FR pour français. Donc, l'adresse apparaît pour l'instant à l'écran.
Oui.
Et puis, vous pourrez la prendre en note. Sinon, je peux peut-être la mettre dans le chat, tiens.
Oh, peut-être, oui, bonne idée. Mais ça va te changer demain, de toute façon. Hein? Parce okay. qu'ils ont un condensé qui, comme ils lancent demain, ça va être ça qui va paraître demain. Donc, de toute façon, ça va moins ou moins à cette place-là. Et comme une autre adresse, ça va se cheminer là, peu importe.
Mais, donc, les gens qui veulent avoir l'information, tout est là pour l'instant.
Et c'est ça, oui. Et là, si tu le mets sur le chat, c'est parfait.
Oui, les deux sont mis. Puis il y a même Mu Saint-Onge qui a fait la même chose que moi. Okay. Et on le fait presque en même temps. Ah. Donc, vous allez avoir un 2-1 sur l'adresse Internet de cette année-là. On va poursuivre avec d'autres questions parce qu'il y en a. Geneviève Beauregard, j'ai ouvert le sac de terreau pour semis et il y avait de la mousse blanche dessus le terreau. Est-ce utilisable pour les semis ou ce serait mieux pour une autre utilisation?
Une bonne question et je n'ai pas de réponse exacte. Normalement, il n'y a pas grand-chose à craindre dans le développement d'un petit champignon dans un terreau. Mais les semis sont plus fragiles que d'autres choses. Donc, moi, je dirais que oui. Vous savez qu'un bon terreau n'est jamais stérile. Il ne faut pas qu'il soit. Il faut qu'il y ait de la vie là-dedans. Mais il y a peut-être un petit champignon qui a pris le dessus. Donc, moi, je dirais, prenez ça comme terreau de compostage, de dempotage ou pour un pot quelconque ou pour repiquer. Mais pour les semis, j'aime être plus sûr et aller avec une terreau qui n'a pas ce petit développement-là. Oui, je changerai de sac. Et peut-être une mention au Centre Jardin. Ils vont peut-être vous rembourser. Hein? On ne sait jamais. Donc, voilà.
J'ai une petite question personnelle. Tu sais, on est fin mars. Avril commence à la fin de la semaine. Les températures moins à Québec sont anormalement froides. Est-ce que ça a une incidence dans la croissance, pas dans la croissance, mais dans la chronologie des choses que les jardiniers ont à faire, que le fait qu'on a des températures de janvier en mars?
Pas tant que ça. Parce qu'habituellement, ce qui se passe, c'est qu'au printemps, des choses évoluent à des vitesses différentes selon les années. Mais on aboutit pas mal au même endroit et plus ou moins au même temps. Ce qui fait que, même si on semble très en retard, on peut facilement rattraper ça. Il s'agirait d'avoir une semaine de beau temps quand la neige serait plus basse. Ça pourrait faire de la différence. Mais habituellement, au Québec, même s'il y a beaucoup de neige ou pas, on est rarement capable de planter grand-chose, de plantes pas rustiques avant la fin de mai ou le mois de juin selon la région. Ça ne change pas énormément. Mais et pour les gens à l'intérieur, pour nos semis, etc., vraiment, la température qu'il fait au mois d'avril, ça n'a pas d'importance du tout. Ça va être une fois qu'il faut décider si on sort les plantes, là, la température va être très importante à savoir. Parce qu'on ne veut pas exposer nos jeunes plantes fragiles à du grand froid. Mais tant qu'ils sont à l'intérieur, c'est pas un gros problème. Le seul défaut, c'est beaucoup, beaucoup de neige et que vos fenêtres sont couvertes de neige, ça vous aide pas pour faire vos semis. Ça, je peux vous garantir, c'est pas bien ça.
Ben, merci pour la réponse. On va y aller avec Manon Bernier. Le jardin, combien de plants de poivrons je dois mettre dans mon potager pour une consommation de 2 personnes et en conserver un peu congelé?
Oh, mon Dieu, hey, c'est des... Bon, ça dépend. Différents poivrons produisent plus ou moins de fruits. Les variétés à gros fruits, d'habitude, produisent moins que les petits. Les actifs produisent plus. En tout cas, c'est difficile à dire. Moi, je dirais, si vous voulez en conserver en plus, moi, je dirais, ça vous prend pour 2 personnes, je dirais 4, peut-être 6 plants. Mais ça dépend de votre utilisation aussi. Moi, personnellement, c'est pas moi qui va manger. Un poivron, d'habitude, seul, moi, j'utilise ça à travers d'autres nains. Mais quelqu'un qui fait des poivrons farcis, voilà, on passe à travers très, très vite dans un cas semblable. C'est difficile à dire. Moi, je dirais 4-6 et vous verrez bien. Une des raisons pour lesquelles c'est bien de prendre des notes quand on jardine, c'est qu'on se rappelle, OK, l'an dernier, j'ai fait 4 plants, ce n'a pas été assez. Donc, on peut vraiment se rappeler dans ce cas-là. Qu'est-ce que c'est qu'il faut faire l'an prochain?
Jasmine Plante. Le chemin menant à la maison est de 100 pieds plein sud. J'aimerais le border de tilleuls d'Amérique. Je suis en zone 4 à 1300 degrés d'altitude. Est-ce un bon choix? Distance de plantation entre chacun?
OK.
C'est ce qu'elle veut savoir.
Ben, d'abord, ça devrait être un bon choix parce que c'est un arbre indigène et adapté à la zone 4. Donc, c'est une plante qui développe bien poussé. Et comme c'est une plante indigène, la plante va trouver ses pommes attaques et tous ses petits amis localement. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Excellent. Et comme c'est une plante aussi qui nourrit beaucoup de petits insectes amis, c'est très, très bien. Distance entre plantations. Ça, par exemple, je suis très mauvais avec les chiffres et j'oserais pas dire. Mais moi, je suggère le truc suivant. Essayez de trouver un site web. Moi, j'aime bien Hydro-Québec pour les arbres. Site d'Hydro-Québec. Et la distance qu'ils disent comme largeur, le diamètre à maturité. Le diamètre à maturité, c'est la largeur que la plante occupe sur votre terrain. Et supposons qu'on dit que c'est 8 mètres. Je ne sais pas, là, mais peut-être qu'ils disent 8 mètres. Donc, logiquement, si on veut avoir une ligne droite, l'autre, on peut prendre la moitié de ça et planter un autre à 4 mètres pour que les deux, à 8 mètres, excusez-moi, à 8 mètres et les deux vont se rejoindre. Soit qu'elle se mélange un peu, là, elle est plus proche que ça. Mais ça va être environ ça. Vous avez quand même un choix. Si vous voulez voir l'arbre individuel, il faut faire un peu plus large. Voilà, à vous de faire les calculs. Parce que encore, vous l'avez vu tantôt, comme j'ai vite fait une erreur, c'est pas moi. Ça me prend un crayon, un papier, et ça me prend quelques minutes. Je ne suis pas vite avec les calculs.
Marielle Larenarde écrit, « J'ai trouvé des pucerons sur 2 sortes de jeunes semis, poivron et hibiscus. J'ai pourtant utilisé la terre à semis d'un sac neuf, puis de la terre de rempotage d'un sac neuf. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu des pucerons. Avez-vous une idée? »
Il devait avoir à quelque part, dans votre maison, peut-être sur une autre plante, des pucerons adultes. Les adultes ont des ailes. C'est la seule partie de la génération qui a des ailes. Et souvent vont entrer en... Là, j'oublie le nom. Pas exactement la dormance, mais quelque chose de proche. Le nom est peu importe. Sont essentiellement endormis à la fin de l'automne et au début de l'hiver. Mais à un moment donné, ils se réveillent, partent au vol, atterrissent sur quelque chose, pondent 2 œufs et ça commence. Donc, moi, je suggère qu'ils devaient avoir à quelque part. Peut-être un plat que vous pouvez rentrer l'automne. Mais ça peut rentrer aussi sur des vêtements et hiverner sur un veston qui est resté dans le garde-robe. Vous ouvrez la porte, l'insecte sort et on œuf sur une autre plante. Ça a des choses qui sont possibles.
Marie-Thérèse Bourbonnet. Bonjour, M. Hutchison. Quelle grandeur de jardinière biotope faut-il prendre pour un plant de tomates, par exemple?
OK, moi, j'ai un jardinier biotope que j'utilise, pas exactement selon les méthodologies qu'il recommande, que j'utilise. Et moi, je dirais, ça, c'est la base. Peut-être qu'il est plus gros, mais moi, je mettais deux plants à terre. Je peux mettre petits légumes à côté, bien sûr, et tout autour. Mais c'est des grosses plantes. Deux par biotope est quand même une boîte à fleurs, mais plus haut, plus large. Donc, c'est plus long que large. Et ça, il y a peut-être pour deux tomates là-dedans. Si vous prenez des tomates standard, il y a des mini-tomates peut-être plus. Mais deux tomates, c'est des vrais tomates.
Danny Marin, qui écrit quelque chose de très drôle. Encore moi avec mon 20-20-20. Pourrais-je m'en servir pour fortifier trousse tu y as de 3-4 pieds et même pour un érable de l'amour de la même hauteur?
Oui, il veut dire 3 tuyas. Est-ce que trousse, c'est pas le mot? OK, tuyas, c'est un mot. OK, voilà. Oui, absolument. Vous savez, les engrais, la grande histoire des engrais, les choses qu'il faut comprendre en tant que jardinier, d'après moi du moins, c'est que l'histoire qu'un engrais est meilleur qu'un autre pour telle raison, c'est une bonne partie de la fantaisie. C'est les vendeurs de l'engrais inventent des choses. Ils n'ont même pas de preuves. Hein. Si vous demandez à un vendeur de l'engrais, disons, pour tuyas, supposons que tu marques pour tuyas, et c'est quoi votre preuve que c'est bon pour les tuyas? Ils ne peuvent même pas vous répondre. Ils n'ont jamais essayé. Ils n'ont aucune idée. Ils inventent des choses. Ils vous le vendent. Donc, 20-20-20. On le vendait pendant des années de temps, beaucoup moins aujourd'hui, et on l'utilisait comme engrais de tout usage, à peu près. Mais voilà, c'est un engrais de tout usage. Tous les engrais sont de tout usage. Prenez ça, mettez ça sur n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Par contre, les gens qui veulent avoir absolument biologique, il faut savoir que 20-20-20, ce n'est pas biologique, c'est des concentrés de minéraux. Par contre, est-ce que c'est la fin du monde? Quant à moi, non. Côté engrais, le problème des engrais synthétiques, c'est pas tant que l'engrais, même pour le nuire de la plante, c'est qu'on en donne trop et ça pollue. Si vous le diluez comme il faut, quant à moi, c'est pas un problème majeur. De toute façon, c'est beaucoup moins biologiquement. Il faut parler de respect pour l'environnement. Si vous avez un engrais, même chimique, sous la main, c'est beaucoup plus écologique de l'utiliser que de le jeter. C'est certain. Et vous l'utilisez peu à la fois. Et comme ça, il n'y aurait pas de séquelles. Donc, voilà.
Steve Gagnon veut savoir, écrit en fait, « J'ai acheté de la terre dans potage d'une compagnie connue et en lisant les ingrédients, j'ai réalisé que c'était de la tourbe noire avec du calcium pour neutraliser l'acidité. Est-ce qu'il y a des compagnies qui ne font pas ce genre d'arnaque? »
Oui. Donc, une chose intéressante se passe, c'est que pendant très longtemps, il n'y avait pas d'obligation pour les compagnies de terreau d'écrire quoi que ce soit sur le contenu. Vous pouvez mettre ce qu'ils voulaient. Il ne fallait pas qu'ils mentent. Mais si vous voulez voir dans un terreau marqué « terreau non potage » et pas dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et encore moins les proportions, il pouvait très bien le faire, parce que légalement, il n'était pas nécessaire de le faire. Mais ça change. D'ici 2023, je ne sais pas c'est quoi la date, ils doivent tous mettre le contenu. Donc, on va voir, on a déjà vu depuis quelques années, on va voir de plus en plus, on va vous donner le détail. Et là, vous allez pouvoir juger si vous voulez ce terreau-là ou pas. Donc, ce serait une bonne chose de regarder voir. Parce que la terre noire n'est pas riche, trop compacte, et vraiment pas une bonne terre pour quoi que ce soit. À la limite, pour alléger une sol lourde, peut-être. Mais ce n'est pas une terre à recommander. Et donc, le fait qu'ils mettent le tourbe noir, qui est le terre, ce qu'on appelle le terre noir, c'est le tourbe noir, vous l'avez bien dit, là. Mais quand un terreau contient beaucoup de ce produit-là, surtout, ça veut dire basse qualité. Demandez à n'importe quel fabricant qui va être honnête avec vous, plus qu'il y a de tourbe noir, moins c'est de qualité. Moins qu'il y ait de terre noire, plus cette qualité. Et que chercher des produits qui n'ont pas beaucoup ou pas du tout de terre noire, si vous êtes capable.
Anne-Marie Gélina, les nombreux chats de mon voisin ont adopté mon potager comme litière. Est-ce que c'est nocif pour les légumes? Faudrait-il nettoyer à mesure?
Bon, ça n'est pas... Directement, c'est pas nuisible. Non, c'est des déchets, ça se décompose, c'est bon pour les plantes. Par contre, il peut y avoir trop de concentration. Et en connaissant les champs, ça a tendance à retourner au même endroit. Puis, c'est pas le gros. Le gros, nous, ce qui nous dérange, nous, c'est souvent l'odeur. L'odeur, soit dérange pas les plantes, mais c'est que ça gratte. Le champ va gratter le sol. Et c'est ça qui nuit. Donc, ouf, c'est quand même pas la fin du monde, ça. Mais pour l'odeur, c'est pas intéressant trop. Des fois, nettoyer à mesure, probablement, ce serait sage. Et aussi, il y a un risque de contamination, surtout avec les sels, bien sûr. Donc, on serait mieux de faire attention. J'aurais tendance à dire de ne pas utiliser les légumes racines ou les légumes feuilles si les champs y vont souvent. Ou encore les laver comme il faut et les faire cuire. Les fruits, par exemple, ce n'est pas un problème. Une tomate qui n'est pas touchée, ce n'est pas un problème. Mais moi, je fais un peu attention. Et peut-être mettre une barrière pour que le champ retourne.
On va y aller maintenant avec la question de Caroline Carrière. Oui. Quand doit-on découvrir les arbres fruitiers tels que le pêcher et l'arbre abricotier, zone 5B, Mascouche?
Dès que vous êtes capable. Le gros foie, c'est terminé. Ça ne sert à rien de garder ça. Et on ne peut pas protéger quand les gels tardifs, sauf de dernière minute. Parce que ce qui arrive maintenant, moi, je ne couvre rien, mais si vous avez couvert un arbre croquis, disons, avec une toile quelconque, comme il commence à faire plus chaud de jour, et des fois certaines journées, ça peut devenir très chaud, ça peut stimuler une croissance trop hâtive. Donc, ces protections contre le foin deviennent visibles. Quand la neige commence à fondre, c'est le temps de l'enlever. Donc, si vous avez accès à ça, moi je dirais, à Mascouche surtout, est quand même pas mal plus chaud que où je suis. Ce serait le temps d'enlever. Les températures qu'il faut craindre, c'est moins 12 et plus, ou moins 12 et moins, je devrais dire. Si vous êtes en haut de ça, c'est pas un problème. C'est quand même pas mauvais d'avoir à côté une toile flottante ou quelque chose pour couvrir l'arbre en cas de gel tardif. C'est une autre histoire complètement, ça. Donc, dans le cas de gel tardif, l'arbre n'est pas abrité, là. Elle est à l'air libre, commence à pousser. Il arrive un gel de dernière seconde. Là, on peut couvrir et protéger. Mais enlever la protection hivernale dès que vous pouvez. Ce n'est pas utile une fois que la neige commence à fondre.
On y va maintenant avec la question de Frédéric Martel, oui. Qui veut savoir qui est à Québec, qui demande si ce week-end, c'est trop tôt pour tailler les pommiers, poiriers, cerisiers.
Oh non, pas du tout. C'est une excellente période pour le faire. Ce qui arrive, c'est que on taille pas énormément ces arbres-là parce que ce qu'on taille, ça enlève des fruits. Mais ils produisent trop aussi. Fait qu'on va souvent faire quoi? On va tailler pour enlever les branches mortes, les branches qui frottent ensemble, les branches qui sont brisées. On va enlever tout signe de maladie aussi. Et on va ouvrir un peu quand ça commence à pousser trop densément. On va avoir de plus grosses branches et pas beaucoup de brindilles. Donc, en général, c'est une taille comme ça qui va être relativement légère. L'avantage de le faire maintenant, d'abord, bon, côté physiologique, c'est un bon moment pour faire la taille parce que l'arbre va commencer à pousser rapidement bientôt. Et quand on pousse rapidement, les blessures guérissent rapidement. C'est faire une taille au milieu de l'automne, ça va rester 2-3 semaines sans pousser, pas fort. Mais maintenant, ça va être bientôt que ça pousse. Excellent à ce niveau-là. Et aussi, l'avantage de le faire maintenant, c'est que à Québec, au moins, vous pouvez mettre vos raquettes et tailler sans être obligé d'avoir un escabeau. Donc, wow, c'est bien pratique. La neige est utile pour les gens qui taillent les arbres, les vergers, dans la région de Québec, du moins. Le fort raquette, hein? C'est comme ça que ça se fait.
Mais même s'ils ont des raquettes, j'imagine qu'ils doivent caler quand même un peu.
Non, la raquette, tu ne cales pas, Michel.
Ah non?
Ah, à peine. Vraiment pas.
Mon expérience en raquette est nulle, donc désolé. OK. Donc, Jeanne Marin maintenant. Mon cerisier de Virginie présente des nœuds de couleur noire sur deux branches. Dois-je couper ces branches? Dois-je le couper au complet?
OK, à vous de décider. Ça, c'est le nodule noir. Le nodule noir est une maladie qui est transformée d'arbre en arbre par les insectes lors de la pollinisation. Donc, c'est pas évident pour les prévenir ça. Aussi par le vent, à un certain degré. Et c'est terrible, les dégâts que ça cause sur les pruniers des cerisiers. Il faut quand même savoir qu'il y a des souches différentes de nodules noirs. Donc, il se trouve que la souche qui attaque actuellement votre cerisier de Virginie ne toucherait pas un prunier à côté. C'est, il va avoir une autre sorte, peut-être. Et en plus, le climat du Québec en général, l'air est humide ici. Et c'est, ça prolifère ici terriblement. Donc, on a beaucoup de difficultés à garder ces plantes-là en bon état. Moi, je dirais couper les branches, oui, absolument. Nettoyer votre sac à terre entre chaque coupe avec l'alcool de friction, par exemple, pour le stériliser. Couper au moins 15 cm plus bas que le nodule qui pousse. Et même là, là vous avez juste deux, c'est pas si pire. Qui sait, peut-être que vous aurez du succès. Mais si ça revient l'an prochain, dites-vous bien que votre arbre va continuer de dépérir. C'est pas un cancer, mais c'est comme un cancer avec les métastases. Ça a tendance à commencer à un endroit et apparaître à gauche et à droite par la suite. Habituellement, on peut garder ces arbres en vie longtemps, mais en coupant des branches tous les ans jusqu'à ce qu'on arrive au point où c'est pas la peine. Donc, à vous décider. Avec juste deux nodules, et s'il est bien isolé, pas d'autres de même espèce autour, j'aurais tendance à dire, je le laisserai faire pour une fois. Mais si je vois que ça réapparaît l'an prochain, aussi bien de le remplacer. Ou encore, de planter l'arbre qui va le remplacer et le laisser pousser 3-4 ans avant de couper l'arbre qu'il faut enlever. Voilà. Michel, question pour toi. Je t'avais envoyé au début.
Oui, attends, je revérifie pour être certain. Parce que tout à l'heure, je n'avais rien reçu. Oui. Je revérifie pour être certain.
Je ne l'ai pas vu?
En fait, oui, j'ai un courriel de toi avec une image.
Oui, parfait. Et une question, parce que et je peux lire la question, je l'ai ici.
Ouais, parce que moi, je n'ai pas la question, j'ai seulement que l'image. Mais donne-moi, on va y aller avec une autre question du chat pendant que je fais quelques manipulations pour qu'on puisse voir la photo en question. Mais ça sera la prochaine question après celle qu'on va poser de vivre ses rêves. Est-il conseillé de mettre le terreau à semis à l'extérieur avant l'utilisation pour que le gel tue d'éventuels parasites?
Non, pas nécessaire. On va espérer qu'il n'y a pas de parasites comme tel. Mais encore, je vais m'en servir rapidement tantôt, mais on veut un terreau vivant. On veut un terreau avec des microbes. La plupart sont bénéfiques ou pas nuisibles au moins. Et donc, normalement, on veut en avoir. Ça stimule la meilleure croissance chez les plantes. Donc, moi, je dirais non, pas du tout. Et ce n'est pas certain que ça va les tuer de toute façon. La plupart des microbes du terreau, étant donné que le terreau a été récolté au Québec, parce que dans le fond, on est un gros fabricant de terreau d'empotage au Québec. Hein. Nouveau-Brunswick et Québec, on est les producteurs majeurs dans l'Est de l'Amérique du Nord. Donc, ça vient de chez nous, et les microbes sont de chez nous. Donc, voilà. Moi, je dirais, pas de peine, parce que ça va passer l'hiver de toute façon, et aussi bien de votre terreau un peu plus sec. Et encore non là-dedans, sauf de très rares exceptions. Ce n'est pas des microbes nuisibles.
On est prêt pour la question. Je montre l'image donc, que tu m'as envoyée tout à l'heure.
Oui. Et la question, vas-tu que je lise?
Oui, je ne l'ai pas. Vas-y, Lila.
Je vous envoie une photo de mon chef funéraire. Je lui ai coupé la tête pour faire une bouture et pour qu'il se ramifie coupé au bon endroit. Pouvez-vous m'expliquer comment faire? Mon chef funéraire a une seule tige. Et c'est de Manon Gamelin. Donc, voilà. Donc, on le voit dans l'image. C'était un peu haut. Moi, je vais couper plus près du nœud. Un nœud, c'est toujours un endroit où, évidemment, là, je dis, pour le bénéfice de la plante qu'on veut faire faner les branches pour stimuler la ramification. Idéalement, on va couper juste en haut d'un nœud, comme ça, on n'aurait pas ce chicot-là qui va rester après. C'est pas la fin du monde. On peut le couper plus tard. Parce que la plante va repousser là où il y a déjà eu une feuille. On appelle ça un nœud. On voit très bien parce que les feuilles sont encore là. Il y a un nœud juste en bas. Peut-être une centimètre et demi plus bas, il y a un nœud. Donc, c'est juste en haut, ça aurait laissé un chicot moindre. Mais c'est quand même pas la fin du monde. Maintenant, pour le bouture, c'est pas grave. Tant que vous avez une section de la tige nue, c'est très, très bien. Ça va juste laisser un peu moins, une blessure un peu moins évidente. Moi, ce que je ferais, c'est que j'attendrais que les nouvelles branches, parce qu'il va en avoir, votre fait de vous tailler, ça va stimuler la plante à faire probablement plusieurs nouvelles branches. Et dans ce cas-là, revenez peut-être dans 6 mois quand les nouvelles branches sont bien reparties. Et avec un sécateur, coupez plus près des premières branches du haut et ça ne paraîtra pas trop votre taille. Et d'ailleurs, je souligne que le chef Laurent, vous avez là, c'est celui qu'on appelle le chef Laurent nain. Non pas qu'il est nain, mais il est plus petit que l'autre. Et lui, il a tendance à faire plusieurs branches quand on a taille. Le grand chef Laurent actinophila, lui, par contre, vous coupez la tête, il a tendance à faire une seule tête de remplacement. Mais lui, habituellement, on taille, puis il devient plus fourni par la suite. Voilà.
Donc, on va enlever la photo. Voilà. Maintenant, la prochaine question vient de Jeanne Ouellet. Mon terrain au chalet à Mornites, zone 4B, est envahi d'une, entre guillemets, mauvaise herbe envahissante que je ne parviens pas à identifier. En surface, il y a un relativement petit nombre de tiges de 1, max 2 pieds de haut avec quelques feuilles. Mais sous terre, elle développe un immense réseau de rhizomes ou racines traçantes. Elles sont peu profondes et donc faciles à arracher si on tire dessus. Mais le défi est que ça ne finit jamais. En voulant en arracher des morceaux, ça nous mène à une autre, puis ça continue. Rejoint une autre racine. Une idée de ce que ça peut être, des photos, mais je ne peux pas partager ici.
Non, vous ne pouvez pas partager.
Non, elle dit qu'elle a des photos, mais elle ne peut pas nous les montrer.
Oui, je comprends. On ne peut pas partager avec notre méthode à nous de fonctionner. Ce n'est pas possible. Et là, je ne sais pas c'est quoi. Mais il y a plusieurs plantes envahissantes. Et vous pouvez les appeler mauvaises herbes. Hein? Moi, c'est ma définition de mauvaise herbe, c'est une plante qui pousse où je ne le veux pas. Peu importe ce que c'est. C'est peut-être une ginkgo, quelque chose d'extraordinaire. Mais si je ne le veux pas, c'est une mauvaise herbe. C'est ma façon de voir ça. Donc, vous ne le voulez pas, c'est une mauvaise herbe. Et justement, il ne faut jamais arracher les plantes à rhizome parce que plus qu'on arrache, plus que ça pousse. Le moindre petit morceau produit d'autres nouvelles tiges. Et c'est des plantes qui, de la nature, sont faites pour pousser rapidement. C'est la façon de pousser. C'est des plantes naturellement envahissantes. Donc, que faire? Oh, c'est pas évident. Parce que c'est sûr que arracher, ça juste fait empirer les choses. Pire encore, et j'ai déjà fait ça pourtant, et que j'étais naïf quand j'étais jeune jardinier. Passer un rotoculteur. Oh, quel dégât! Quel dégât! Parce que ça brise les rhizomes en des milliers de petits. C'est aucun bon sens le dégât que ça peut causer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La meilleure chose à faire dans un corps semblable, c'est de faire, on appelle ça bâcher, ou c'est un autre terme qui ne vient pas à l'esprit. Couper la lumière. Les plantes ont besoin de lumière. Ça ne peut pas pousser sans lumière. C'est bon que ce soit un champignon. Ça ne peut pas pousser. Ça a besoin de lumière. Absolument. Donc, souvent pour bâcher, on va couvrir avec une toile noire. Pas un noir pour pas que ça laisse passer quoi que ce soit comme lumière. Il faut le laisser au moins un an en place. Mettre des pierres, des roches ou des briques pour le tenir en place pour pas que ça bouge. Et la surface couverte, la plante va mourir. Après un an, essayez pour voir s'il y a un peu de repousse. C'est une deuxième année. Mais souvent, une seule fois, ça suffit. Le problème, c'est que tout autour, ça revient. Donc, c'est je ne connais pas surface ou qu'elle dit surface. Je ne l'ai pas dit. Sur la surface est relativement limitée. Ce serait des choses à faire. Couvrez tout, là, toute partie où ça pousse et mettez le toile en place. Faites ça ce printemps. Au printemps prochain, vous pouvez peut-être faire quelque chose. En attendant, vous pouvez faire une culture en pot, par exemple. Sur le, ça n'est pas décoratif en attendant. Mais au moins, vous aurez, en faisant d'achage, vous coupez la lumière et ça va éventuellement tuer la plante. Si vous avez beaucoup de surface qui est envahie, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir installer une barrière dans le sol. Quelque chose de profond, qui va plus profondément que les racines. D'ailleurs, on peut trouver sur l'Internet une barrière appelée anti-rhizome. Il faut le faire venir. Et vous installez ça entre deux parties. La partie où vous dites, OK, la plante fera ce qu'elle veut, et l'autre partie, je regarde pour moi. Et donc, à l'intérieur, là, vous faites le bâchage. Vous tuez tous les rhizomes et vos jardiniers.
Joanne Demers, est-ce qu'il y a une durée de vie pour les pots d'engrais commerciaux, ceux en poudre granulée bleue? J'en ai depuis plus de 10 ans.
Pas du tout. Si c'est même si c'est pris en mouton, casser le mouton et utiliser. On en a parlé un peu la semaine dernière, mais il n'y a pas de limite. C'est des minéraux, hein? Ça ne se décompose pas.
Quelqu'un qu'on connaît bien, toi et moi, Marlène Bordelot.
Ah!
Allô, Larry. Mon Pilia perromyode. Désolé, j'ai probablement bousillé le nom. Donc, son Pilia ça, là?
Pilia peperomyodes.
Je m'essayerai pas une troisième fois. A des taches jaunes sur le bord de ses feuilles. Il y a assez de lumière et autrement, il semble bien aller. Est-ce une maladie, un manque de nutriments?
Des fois, on voit ça quand c'est un peu trop chaud, l'hiver. Je ne pète pas le cas chez vous, mais ça peut être lié à ça. Mais autrement, je n'ai jamais su exactement qu'est-ce que c'était. C'est un problème mineur. Ça ne persiste pas. Le plant pousse très bien avec ça. Et je n'ai jamais trouvé exactement qu'est-ce que c'était. Sauf, encore une fois, j'ai cru remarquer que lorsque le plant est toujours en belle température chaude de l'année, elle a tendance à en faire. Et quand elle a une bonne baisse l'hiver, elle en fait moins. C'est parce que les plantes aiment bien suivre son cycle naturel. C'est une plante quand même subtropicale qui vit sous un climat où il y a un changement saisonnier.
Donc, Agnès Morin-Chartrand pour la prochaine question. Pour des raisons de santé, je veux planter mes fraisiers dans un potager surélevé. Est-ce faisable ou si les fraisiers doivent être directement au sol?
Oh, aucun problème du tout. Les fraisiers vont très bien en pot. Excellent. D'ailleurs, je fais la même chose que vous et pour les mêmes raisons. Je ne peux plus me pencher, je ne peux plus faire grand-chose, mais je peux au moins tapoter autour des plantes dans un pot surélevé. Donc, aucun problème, ça va super bien. Ça produit très bien, pas de problème du tout. Et même chez moi, évidemment, avec un gros pot profond, ça survit même l'hiver. Ce qui est quand même surprenant vu les hivers froids qu'on a. Mais dans mon expérience, dans un gros pot, ça passe même l'hiver. Donc, allez-y, donnez-lui beaucoup de soleil, c'est tout, et ça va bien aller.
J'ai une autre question personnelle un peu. Pour des gens qui ont de la difficulté, comme toi, par exemple, à se pencher, ou des gens qui sont en fauteuil roulant qui doivent avoir des jardins, des trucs surélevés, est-ce qu'il y a des plantes, des fruits, des légumes, bon, peu importe, qui ne peuvent pas être cultivés dans ce genre de plate-bande-là, de bac-là?
Oui, bien sûr, mais c'est surtout des plantes très, très grosses. En particulier, parce qu'il y a n'importe quoi en bac. C'est très rare qu'on ne peut pas. La seule exception, je dirais, les arbres, c'est à cause de la taille. Arbre dans un bac, c'est comme un petit arbre, mais un grand arbre, c'est pas évident. Donc, moi, je dirais que presque n'importe quelle plante, je fais attention aux arbres de taille moyenne ou de grande taille, c'est trop gros. Il faut quand même penser, si on veut que les plantes passent l'hiver, il fait plus froid dans un pot qu'en plein terre. Donc, je choisis des plantes un peu plus résistantes au froid. Mais pour les plantes qu'on cultive dans l'année, les annuelles, les légumes pour la plupart, il n'y a aucun problème pour faire ça. Par contre, il faut quand même penser au rendement. je ne suis pas certain que ça vaut la peine de cultiver un artichaut dans un pot qui prend énormément d'espace et qui livre exactement une artichaut à manger. C'est peut-être mieux de choisir d'autres plantes plus petites dans ce cas-là parce que l'espace est plus précis. Mais on peut le faire si on veut.
Parfait. Merci de la réponse parce que il y a de plus en plus de gens qui cultivent de cette façon-là. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on peut mettre pratiquement n'importe quoi dans ce genre de bac-là. On va y aller maintenant avec la question de Agnès Morin-Chartrand. C'est elle que je viens de poser. Donc, Anne-Marie Gélina, si on taille nos fruitiers maintenant, combien de temps faut-il attendre pour mettre la bouillie soufrée et l'huile de dormance? Si on en met trop tôt, est-ce que ça empêche la guérison là où on a coupé?
Non, la réponse, c'est pas d'influence. Aucun problème. On peut vaporiser tout de suite après. Moi, logiquement, vous ferez après, bien sûr, parce que notamment votre application va se rendre plus loin. On a quelques branches qui bloquent peut-être l'exposition. Mais avec ça, vous allez pouvoir faire ça vraiment sans problème. C'est beaucoup plus quand la plante est en fleur qu'il faut faire attention. Et plutôt quand il commence... quand il commence à faire chaud.
Manon Frève, comment contrôler la lierre terrestre? Cette mauvaise herbe est très envahissante et détruit ma pelouse. Merci.
Oui, la lierre terrestre, Glaucoma edoracea, c'est moi les noms latins, je les ai dans la tête, beaucoup plus que le nom commun des fois. C'est une petite plante qui court sur le sol et qui envahit beaucoup les personnes. Il y a un traitement avec le borer, B-O-R-E, qui est un élément naturel, quand on a besoin pour pousser. Et il se trouve que cette plante-là, tu n'as pas une application de borer. La recette exacte, je ne l'ai pas en tête, parce que les chiffres ne restent pas dans la tête. Et sur le site jobneperreuse.com, cherchez lierre terrestre borer, B-O-R-E. Vous allez voir, ça va paraître. Ça va vous donner la dose exacte. Donc, vous appliquez ça. Quand la plante est en croissance, donc pas maintenant, plus tard, et ça aide à le détruire. Il reste quand même qu'il y a une autre façon de voir la chose. Parce que moi, je suis journée très paresseuse, j'espère. Mais cette plante-là, vous dites, ça tue le gazon. Mais moi, je dirais que ça détruit le gazon. Ça se marie au gazon, plutôt. Ça se mélange avec le gazon. Si vous êtes quelqu'un qui veut absolument dégraminer, on peut dire que ça détruit, mais un gazon n'a pas besoin d'être que dégraminé. Et cette plante-là, dans un gazon, se mélange avec les graminées, des petites fleurs violettes, des petites feuilles, parce que c'est la fin du monde. Moi, j'en ai chez moi. Je m'en occupe pas du tout. C'est pas un problème. Petite plante, pas de complications. Moi, je laisse faire, parce que le contrôler est plus compliqué que de laisser faire. Et en plus, pour moi, un gazon, c'est juste un espace où je peux marcher du pied et on peut marcher du pied sur cette plante-là. Donc, pas de problème.
Nicole Bérard. J'ai deux bacs à jardin, un de 2 ans et l'autre de l'année passée. Dois-je ajouter de l'engrais, fumier, mouton, crevette ou poule ou seulement un terreau comme Promix ou Miracle Grow?
Ben, écoutez, ça n'est pas... parce que les produits dont vous parlez, ce n'est pas des engrais, ça. Fumier mouton, crevette, peut-être que le poule, oui. C'est difficile parce que je ne sais pas exactement quel produit que vous avez en tête. Mais on ne vend pas d'engrais de fumier de mouton. C'est plutôt un compost. On ne vend pas de compost d'engrais de crevette. On vend un compost de crevette. Donc, c'est des doses différentes. Et on peut facilement l'utiliser pour augmenter si le terreau est devenu plus compacté. Ce qui arrive avec un bac. Avec le temps, surtout après 2 ans, ça commence à baisser. Donc, on rajoute un produit, puis on mélange pour monter encore une fois. Donc, ça, on pourrait l'utiliser comme ça. L'engrais de poule peut être un véritable engrais. Donc, mais ça peut être aussi un compost. Donc, je suis un peu embêté pour répondre à cette question-là, à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez mettre à la place un terreau compromix ou miracle? Et ça, vous pouvez le faire aussi. Votre but, en fait, il y a comme 2 buts. D'abord, si votre terreau se compacte, ce qui va arriver avec le temps parce que votre terreau est composé de matière organique, et en matière organique, ça se décompose. Donc, avec le temps, ça va baisser, qu'on peut rajouter pour compenser, et on mélange. Mais vous avez besoin aussi d'engrais. Donc, on peut aussi rajouter un engrais en plus pour compenser, parce que l'engrais a été utilisé par les plantes. Donc, il faut en remettre. Donc, on peut mettre les deux, dans le fond.
Anne-Marie Lévesque, si je veux partir des plants de fraises à partir des graines sur les fraises, est-ce que c'est possible de le faire de cette façon?
Oh, bien sûr. Les graines, c'est fraises. La fraise est un fruit bien bizarre. Hein? On est habitué à le manger, mais quand vous regardez comme il faut, combien d'autres fruits connaissez-vous où les graines sont à l'extérieur du fruit? Hein? C'est pas courant. Ça existe, mais c'est pas courant. C'est que même vous pouvez les récolter, les semer, c'est sûr. C'est quelque chose qu'on peut semer au printemps. Si vous semez à cette date-ci, ça va donner des beaux plants, mais la production va commencer l'an prochain. Les fraisiers sont vivaces quand même, c'est rustique. Quelqu'un qui veut vraiment avoir des fraises dans la même saison, on peut les semer plus tôt, début de février à peu près, mais ça prendra un éclairage artificiel. Parce qu'il n'y a pas assez de lumière à cette tête-là. Et là, on pourrait avoir des plants assez gros pour faire une petite production la première année. Mais absolument, on peut semer des graines. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'elles vont être aussi bonnes que la première génération? Pas nécessairement. Ça, c'est une chose à penser. Parce que souvent, les variétés qu'on achète, des plants, des fraisiers vendus pour la production de fraises, c'est des variétés hybrides, des croisements entre deux variétés de moindre qualité. Mais quand on les croise dans une plante avec une vigueur plus forte, on appelle ça les vigueurs de l'hybride. Ah, j'oublie le terme comme ça. Peu importe. Les plantes hybrides, souvent, ont plus de vigueur que les autres. Donc, ce n'est pas certain que vos graines vont avoir ça. C'est juste la première génération qui hérite de ça. Mais ça va donner quand même un plant de fraise et ça va donner quand même des fruits. Donc, oui, on peut le faire.
Christina, la rouche. J'ai un anthurium qui fait un peu la baboune. Les feuilles ont tendance à brunir et il ne produit pas de fleurs. Il n'est pas exposé à la lumière directe et est arrosé modérément. Que faire pour lui redonner le sourire?
Évidemment, je ne sais pas exactement. Je crois que... Je m'excuse. Je crois que son terreau doit être rendu un peu contaminé de sel. Pas le sel de table, mais tout concentré de minéraux. Ça peut être des sels. Ça peut être de l'engrais que vous avez mis. L'eau de robinet en contient beaucoup aussi. Donc, ça se concentre dans le sol. Et cette plante-là n'aime pas ça. Il aime un terreau avec très peu d'engrais, très peu de minéraux, quoi, comparativement à d'autres plantes. Donc, ce serait peut-être une bonne idée de remporter. En changement de terreau. Pour cette plante-là, moi, j'ai une suggestion. Prenez, parce que c'est pas une plante. La plante épiphyte. Dans la nature, elle pousse sur d'autres plantes, avec ses racines à l'air. C'est vraiment très différent de nos plantes habituelles. Donc, quand vous rempotez, pourquoi vous ne prendrez pas un terreau pour orchidées, qui est composé de petits morceaux d'écorce, de mousse mélangée ensemble, et vous mélangez moitié-moitié avec un terreau d'empotage. Et ce mélange-là, pour cette plante-là spécifiquement, ça vous donne un mélange beaucoup plus aéré, mais il va falloir quand même le rempoter peut-être aux 2 ans, 3 ans. Surtout si l'eau dans votre région est beaucoup traitée aux produits chimiques.
Trésor d'Annie. J'ai quelques plantes grasses qui ont développé des plaques brunâtres sur le feuillage. D'après vous, ça serait quoi? Une maladie fongique ou ça serait dû à des insectes?
C'est le genre de choses, ça peut être plusieurs possibilités. Ça peut être des insectes, les trips, entre autres, peuvent comme racler la surface et laisser brunâtre brunir. Aussi, à cette saison-ci, des fois, il y a des coups de soleil. Ça paraît presque pas possible. Mais quand la plante passe des mois à pousser sous un éclairage très faible, et tout d'un coup, c'est le plein soleil, ça peut brûler un peu la surface. C'est rarement très grave, sauf que ça enlève le bouquet de la plante. et que essayer de trouver c'est quoi, peut-être enlever les feuilles qui sont atteintes, mais et ça peut être aussi, vous dites maladies fongiques, c'est possible aussi. Les maladies fongiques sont rares l'hiver, par contre. Mais toutes sortes de choses qui peuvent toucher au feuillage. On devrait voir. Oh, c'est vrai aussi, c'est peut-être le vieillissement aussi. Ça dépend de quelles espèces. Les plantes grasses ou plantes succulentes, il y en a beaucoup. Hein. Donc, chaque plante peut avoir ses propres petits problèmes.
Jean-François Tellier, c'est peut-être la dernière ou l'avant-dernière question. Ça fait 2 ans que j'essaie de faire pousser de la bêta-carde dans mon potager, mais elle finit toujours par être dévorée par la mineuse de la bêta-carde. Est-ce qu'il y aurait une plante qui éloignerait la mineuse de la bêta-carde ou une solution?
OK. La première partie de la question, une plante qui va éloigner la mineuse de la bêta-carde? Non. Vous allez lire sur les sites web qu'il y en a, mais ça, c'est comprendre ses désirs pour des réalités. Ça ne marche pas, ces histoires-là. Il y a très peu de plantes qui repoussent efficacement quoi que ce soit. Vous allez voir sur mon blog, je parle très rarement de ça, parce qu'il y a une certaine vérité, mais c'est tellement minable, je ne sais pas pour encourager les gens de faire quelque chose pour rien. Donc, moi, je ne gaspille pas votre temps avec ça. Par contre, exclure l'insecte pourrait vraiment prévenir. Donc, cultivez vos plants dans un nouvel emplacement ou changez d'emplacement pour ne pas que l'insecte soit déjà présent et couvre avec une couverture flottante. Ça laisse entrer l'eau, l'air, pluie, mais pas les insectes. Et ça vous permet d'avoir une bonne récolte quand même. Alors moi, j'ai eu des gros problèmes avec ça il y a 2 ans, de nulle part, parce que je n'en avais pas à l'avance. Et l'an passé, je n'en ai pas du tout. Fait que on ne sait jamais avec les insectes. Ça vient, ça va. Mais ce n'est pas toujours éternel. Des fois, quelque chose de la nature vient les contrôler. Mais une exclusion comme ça, c'est certain que vous n'aurez pas de problème dans un cas semblable. C'est pas beau à voir, un potager plein de toiles flottantes qui est une toile mince, blanche, mais ça fonctionne. Et voilà, on arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté aujourd'hui. Un gros merci, bien sûr, à Michel Bédard, et aussi à l'équipe de CKIA avec Madeleine Bordelot. Je m'appelle Larry Hodgson. On va te retrouver la semaine prochaine à 10h en mercredi. Visitez mon site web à journeyperreceux.com et pensez-y, c'est l'année du jardin au Canada. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, bye-bye et à la prochaine.
Bye-bye.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se...
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Pour tout savoir sur la programmation de CKIA, pour être au courant des événements culturels et communautaires de Québec, visitez le ckiafm.org ou branchez-vous sur Facebook ou Twitter. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Je me soulève, un film de Hugo Latulippe. 20 jeunes actrices et acteurs s'affairent à saisir l'esprit de notre temps en fouillant la poésie contemporaine québécoise, d'après la pièce de Véronique et Gabriel Côté. Insurgés, habités par la ferveur de ceux et celles qui rêvent de beauté, ils et elles érigent une ode à la vie.
Dans le monde, rien n'arrive sans nous.
Je me soulève au cinéma dès le 25 mars.
Comment ça, j'ai pas de chômage? J'avais pas le choix de démissionner.
L'assurance-emploi te ferme la porte au nez? Action Chômage de Québec défend tes droits. Visite le actionchômage.org ou abonne-toi à notre page Facebook, facebook.com/Action Chômage.
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes des différentes stations de l'Association des radios communautaires du Québec. Édition nationale, c'est tous les jeudis 16h à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Bonjour, ici Aude Malaré.